Lorsqu'ils ont créé RuneScape en 2001, Andrew et Paul Gower étaient loin de se douter que leur jeu atteindrait une telle popularité. Et oui, ce n'est pas moins de 15 millions de comptes gratuits qui existent et 2 millions de comptes payants, pour un total d'environ 17 millions de joueurs et joueuses qui concourent à celle ou celui qui aura le meilleur équipement depuis 18 ans. 18 ans de jeux vidéo, de mise à jour et de création de contenu. En 18 ans, les idées, ça va, ça vient. Mais on peut dire que c'est pas vraiment venu lorsque les créateurs ont eu l'idée d'appeler le succès de victoire au point sur un boss ennemi, Fist Contact. Thierry, t'aimes bien RuneScape ?
Eh ben, ok, je me demandais où t'allais en venir avec ça. Moi, j'y ai joué, je crois, quand j'étais au lycée. Donc ça doit dater de, je sais pas, 3 ou 4000 ans. Et enfin non, je devrais pas dire ça quand il y a des matous dans l'émission, mais non, j'ai joué il y a vraiment très très longtemps, quoi. Ouais, ça doit faire 15 ans ou 18 ans. Et donc, en fait, au bout d'un moment, j'en ai eu marre, c'était moche. Donc, je suis passé à des jeux mieux, plus jolis, et oui, mais ouais, mieux. Mais ouais, c'était rigolo, tout est gratuit, c'était directement sur internet, il n'y avait rien à installer. Je sais pas comment c'est maintenant. Alors, je pensais pas que ça compte. Mais en fait, j'ai découvert qu'il y avait encore des gens qui y jouaient il y a pas très longtemps en parler sur des pages Facebook, et j'étais là, quoi, risqué, ça existe encore ce truc. Et ouais, c'est rigolo. Et donc, ils ont appelé un truc Fist Contact.
Voilà, un achievement, un succès. Quand il y a un boss qui est d'une dernière mise à jour là de 2017, je crois. Si tu le bats à coup de poing, tu achèves Fist Contact.
D'accord.
T'en avais entendu parler, Charles ?
Et pas du tout.
Voilà.
Pas du tout, tu vois.
Et parce que tu joues toi à RuneScape ?
Non, pas du tout. C'est parce qu'en fait, je voulais faire une blague sur First Contact, Fist Contact, et il me semblait qu'il y avait un art martial qui s'appelait le Fist Contact. Donc, j'ai tapé Fist Contact, et les trois premières pages DuckDuckGo, j'ai dû les zapper, et au bout d'un moment, je suis tombé sur RuneScape. Bref, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle émission de Star Trek pour les nuls. Ce soir, nous allons parler de l'excellentissime Star Trek First Contact, sorti en 1996, et réalisé par Jonathan Frakes. Et pour vous présenter ce superbe film, ce soir nous serons trois. Bonsoir Charles, comment vas-tu ?
Salut à tous, c'est ça, très bien.
Et bonsoir Thierry, comment ça va ?
Ça va bien, ça va bien.
Voilà,
j'ai
vous
chaud,
savez...
mais ça va.
Ah oui, là il fait très 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 chaud, à peu près 90 degrés. Vous savez que vous êtes sur les ondes de Pour une poignée de review lorsque le présentateur se retient de faire des blagues cochonnes à propos de points et d'anus. Je suis Rémi et vous écoutez Star Trek pour les nuls.
Star Trek pour les nuls.
Décidément.
C'était merveilleux.
Ouais. Alors ce soir, on avait prévu d'être au moins 6 et en fait on se retrouve à 3. Donc Matou et Pauline se sont excusés. Renaud répond plus comme d'hab. Et voilà. Donc peut-être qu'on aura quelques visites surprises durant l'émission. On verra, on verra. Mais voilà, ça va les garçons.
Tranquillement.
Est-ce qu'on fait pour se mettre en jambe un petit tour de nos dernières geekeries ?
Ah bah oui. J'espère bien.
Eh bien, allez, tu m'as l'air enjoué pour cela. Vas-y, je t'en prie, Charles, commence.
Eh bien, moi, je suis actuellement, littéralement, c'est-à-dire que pendant ton intro, j'étais encore en train d'y jouer, je vais arrêter, sinon je vais pas parler, sur Dragon Quest Builder 2, un petit jeu édité par Square Enix, qui est la suite, naturellement, du prénommé Dragon Quest Builder 1, hein, bien sûr. Qui est en fait un genre de Minecraft avec tout un élément de JRPG à l'intérieur, donc avec des quêtes et tout ça, qui est vraiment excellent. Le premier, j'avais vraiment adoré, et le 2, en fait, ils ont fait un copier-coller du 1, mais en fait ils ont pris toutes les bonnes idées et ils les ont décuplées par 1000, ils ont pris toutes les mauvaises idées et ils les ont foutues à la benne, donc il est franchement excellent.
Ah, bonne nouvelle.
Voilà. Après, en geekerie, bah là, bah je rentre de la séance de Toy Story 4. Et j'avais peur qu'il soit le film de trop, mais non, franchement, très très bon. J'ai adoré un Jamel Debbouze qui a popé aussi. Je suis un peu surpris, mais bon. Et en parlant de Jamel Debbouze, je suis aussi allé voir Le Roi Lion. Voilà. Alors, Le Roi Lion, je suis un peu plus mitigé. Graphiquement, c'est très impressionnant. On a l'impression qu'ils ont dressé des animaux en fait pour tourner le film. C'est assez bluffant au niveau du réalisme, au niveau des fourrures et tout. Par contre, alors il faudrait que j'aille le voir en VO, parce que là je l'ai vu en VF et j'ai beaucoup de mal avec les doublures VF en fait du Roi Lion, enfin du nouveau Roi Lion du coup. Je trouve que le doubleur de Zazu n'est pas à fond. Et même des fois il est trop à fond en fait pendant la chanson de C'est moi le roi, du coup il pète des câbles, je sais pas, il se la joue un peu sous le reggae, il pète complètement un câble. Et j'ai eu notamment beaucoup de mal avec la voix de Simba quand il était enfant. Voilà, au niveau des doublages. Du coup j'attends de voir qu'ils sortent en DVD Blu-ray et puis je me le prendrai pour me le regarder en VO.
Ok, juste je me permets une seconde, John Favreau, le réalisateur, a été salué par la PETA parce que ça a été une décision de prendre des animaux numériques et non des animaux dressés, et la PETA, l'association de défense des animaux, a salué ce choix. Je pense qu'il y avait une raison financière également là-dedans, mais...
Oui, et puis au bout d'un moment, c'est pas possible de faire tout et n'importe quoi avec des vrais animaux.
Voilà.
Il y a quand même des mouvements et tout ça, c'est très compliqué.
Ah, moi, j'aurais bien balancé un véritable lion depuis une falaise pour le faire s'écraser par des antilopes.
J'avoue, ça aurait pu être très drôle. Des buffles, il me semble, non ? C'est pas des antilopes, hein.
Ah, désolé.
C'est sûr que c'est pas des antilopes.
D'accord. et toi, Thierry, t'as des choses à nous partager ?
Ben, j'essayais d'y réfléchir pendant que Charles parlait, mais... qu'est-ce que j'ai ah oui, j'ai vu un trailer d'un film que du coup j'ai pas vu, donc je sais pas s'il sera bon, mais qui m'attire beaucoup. Ça s'appelle L'arrivée du grand Bouddha. C'est un film de kaiju indépendant qui a été financé par financement participatif et qui est en fait une tentative de remake d'un film perdu des années 30. C'est-à-dire un des tout premiers films de kaiju dans les années 30, où en gros l'histoire, bah, c'est une statue de Bouddha gigantesque qui se lève et qui se met à marcher à travers la ville. Et à partir de ce qu'ils savaient de ce film, parce que le film est perdu, quoi, y a pas de pellicule, y a pas de copie, y a nulle part, ça a été détruit, perdu, machin. Mais du coup, à partir d'images qu'ils ont retrouvées, ils ont retrouvé des photos de tournage, des choses comme ça, ils ont essayé de reconstituer un film comme ça, et du coup ils en ont fait un remake de manière indépendante, et ça a l'air très sympa, et il devrait sortir sur internet. J'ai pas vu de date, mais bon, apparemment ça sera dans l'année, mais le trailer m'a beaucoup donné envie. Et sinon, tant qu'on est dans les kaiju, je joue en ce moment à une série de jeux vidéo qui s'appelle Rampage, dont il y a eu un film, je crois qu'on en a peut-être parlé ici, qui a été adapté de ça avec Dwayne Johnson il y a, je sais plus quand, il y a un an ou deux. Et c'est très simple, c'est très bête, mais c'est très rigolo. On joue des gros monstres et on doit détruire la ville. Voilà. Donc il y a différentes villes et on doit les détruire. Et c'est marrant. C'est jouissif.
On a perdu Rémi.
Rémi. Le petit Rémi est attendu à l'accueil.
Je suis de retour, je suis vraiment désolé. J'ai dû m'absenter une demi-seconde, j'ai couru. J'espère que ça va pas trop se sentir. Donc, ben pour ma part, ben j'ai pas de geekerie à vous partager. Sinon, un petit rappel d'écouter les conférences du Stunfest qui sont disponibles sur le podcast de Ludologie. Il y en a deux par semaine à peu près en ce moment, et ça dure tout l'été. Et il y a des sujets plus intéressants les uns que les autres. Alors attendez, juste une petite liste non exhaustive. Jeux vidéo, effondrement, apocalypse, romance et affect comme moteur de gaming et raconter. Il y avait un truc sur l'escrime. Voilà, attaque par Adris riposte quand l'escrime éclaire les affrontements ludiques. Bref, il y a plein de petits sujets comme ça et vraiment c'est le podcast à écouter pendant l'été, selon moi. Après, pour une poignée de reviews. on parle du film ? C'est parti ?
Mmh.
Ouais, alors Charles, est-ce que tu as préparé un résumé ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Et pas Thierry ?
J'ai rien préparé du tout, je l'ai même pas revu en fait, mais mais je peux faire un résumé quand même improvisé.
C'est vraiment
oui,
le bon
résumé. Moi aussi, j'ai fait un résumé improvisé. Hein. Ouais.
Voilà, comme dit Archer sur le chat, bravo. Voilà. Il y en a qui viennent avec la bite et le couteau, ben nous c'est avec la bite et le micro. Bref.
C'est ça.
Désolé. Il y en a qui sortent comme ça.
Ok. Ouais.
Allez, Thierry, tu nous le fais de mémoire, du coup.
Ok. Donc, le film s'ouvre sur une courte séquence où on voit Picard en Borg. Donc, pour les gens qui n'ont pas vu Best of Both Worlds, ça doit être un peu perturbant. Je pense que ça fait partie du jeu aussi, avec la reine Borg. Et puis ensuite on passe sur l'Enterprise E, en fait, avec le capitaine Picard. Ils apprennent qu'il y a un cube Borg qui est en train de se diriger vers une zone qui s'appelle Wolf 250, je sais plus combien. Et que ben tous les vaisseaux de Starfleet, enfin une grande partie des vaisseaux Starfleet sont appelés à le combattre. Ils se dirigent vers le secteur de la Terre, quoi. Et Starfleet demande au capitaine Picard de patrouiller la zone neutre parce que il pense que comme il a déjà été assimilé par les Borg, il est pas objectif. Enfin, il est il est peut-être compromis, quoi. Donc il faut pas qu'il aille dans la bataille. Donc il commence à dire bah voilà, allez, on va faire ce qu'on me dit. Et puis son équipage commence à réagir. Et puis bah au bout d'un moment ils disent bon, on s'en fout des ordres, on y va quand même. Donc ils arrivent pas après la bataille, mais bon, ils arrivent un peu en retard. Il y avait beaucoup de vaisseaux qui ont été détruits. Et Picard fera un peu le commandement de la flotte, il indique des faiblesses du cube et la flotte arrive à le détruire et du cube sort une sphère qui commence à créer une espèce de distorsion dans l'espace. L'Enterprise E donc part à sa poursuite et en fait il se retrouve dans le sillage d'une déformation de l'espace-temps qui va servir à la sphère Borg à voyager dans le passé. Et comme l'Enterprise est dans le sillage, ils sont pas affectés par les changements, mais ils voient que du coup la Terre est complètement assimilée par les Borg. Et donc ils décident de suivre le cube dans son voyage dans le temps. Et ils se retrouvent, ils arrivent à le détruire juste après qu'il ait commencé à bombarder la Terre. Et donc ils découvrent qu'ils sont la veille, donc qu'ils sont arrivés le 4 avril 2063, donc la veille du jour du premier contact entre l'humanité et premier contact officiel entre un peuple extraterrestre et l'humanité, qui est ce qui va servir de base à l'expansion de l'humanité, etc. Et puis par la suite à la création de la Fédération où la Terre a eu un rôle important. Et tout ça, quoi. Et donc que les Borg, ils veulent empêcher le premier contact pour pouvoir assimiler la Terre avant. Et donc bien ils vont détacher une équipe sur Terre pour vérifier que le vaisseau qui est responsable du premier contact, parce qu'en fait donc on apprend que cette rencontre, elle a eu lieu parce que des extraterrestres ont détecté la signature de distorsion d'un vaisseau terrien, ce qui a indiqué que la Terre était du coup un peuple suffisamment avancé pour pouvoir se permettre d'avoir ce genre de contact. Et donc, c'est ce que les Borg ont ciblé. Donc, le vaisseau, donc ils envoient une équipe sur place pour voir s'il a été endommagé et si c'est le cas, aider à sa construction, à sa finalisation, etc. Et y a une équipe qui reste en orbite. Et ils se rendent compte assez vite qu'il y a des drones Borg qui, avant la destruction de la sphère, se sont téléportés à bord de l'Enterprise E et qui sont en train d'assimiler l'Enterprise E. Et donc, on va avoir deux histoires en parallèle qui va être l'équipe sur Terre qui doit s'assurer que le premier contact ait bien lieu et l'équipe d'Enterprise E qui doit empêcher Enterprise d'être assimilée. Et surtout parce que pour se sauver eux-mêmes et pour sauver la Terre, parce que si Enterprise est assimilée, les Borg ont toute latitude pour faire ce qu'ils veulent. Et voilà. Et donc l'équipe détachée sur Terre rencontre donc l'inventeur du réacteur à distorsion. Donc on avait déjà vu rajeuni dans la série originale, qui s'appelle Zephram Cochrane. Donc c'est un espèce de vieil agresseur sexuel alcoolique.
Oui, quel bon résumé, c'est ça.
Voilà, mais qui est un génie. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc il est assez difficile à gérer. Bon, ils arrivent à lui faire. Il joue le tout pour le tout. Il lui avoue tout parce que de toute façon, ça serait trop compliqué d'essayer de se faire passer pour autre chose. Donc il a du mal à les croire, mais ils finissent par réussir à le convaincre. Et puis après, il l'aide à finir de construire le vaisseau qui donc a été endommagé et qui s'appelle le Phénix. Donc ça c'est côté Terre et côté orbite. Picard, en fait, il y a beaucoup de membres de l'équipage qui pensent que j'ai pas parlé de Lily. Quand ils arrivent sur Terre, dans la base où est situé le vaisseau, en fait, qui est construit sur la base d'un missile, en fait, ils découvrent une femme qui s'appelle Lily, qui était, je sais pas exactement quel rôle elle a eu dans l'aide de Zephram Cochrane, mais en tout cas, elle a participé à l'élaboration du vaisseau et elle s'évanouit à cause des radiations. Et donc juste avant qu'on s'aperçoive qu'il y a des Borg à bord de l'Enterprise, elle est téléportée dans l'infirmerie pour être soignée. Voilà. Et donc elle se retrouve à bord du vaisseau. Il lui arrive quelques petites aventures de son côté, et puis elle finit par retrouver le capitaine Picard et le reste de l'équipage principal. Voilà, en croisant des Borg au passage, en pensant qu'ils sont suédois. Et donc bref, l'ensemble de l'équipage pense qu'il faudrait abandonner l'Enterprise et la détruire. Mais Jean-Luc Picard, il veut pas qu'on abandonne le vaisseau, il veut détruire les Borg dans le vaisseau. Et donc voilà, il est un petit peu énervé, un peu dogmatique là-dessus. Donc il a une super conversation avec Lily qui arrive à le convaincre de le faire. Finalement, ce qu'ils feront pas, mais pour d'autres raisons. Voilà. Pendant ce temps-là, Data est capturé par les Borg et rencontre la reine Borg. Donc la reine Borg, c'est une sorte de nœud du réseau en fait des Borg. Donc c'est pas leur chef, c'est une espèce d'émanation, une personnification du collectif en quelque sorte. Et elle essaye de convaincre Data. De les rejoindre en fait. Elle essaie de l'assimiler, c'est compliqué, elle veut qu'il les rejoigne de son plein gré. Et donc elle essaie de le manipuler, elle lui greffe de la peau humaine. C'est vu que l'assimilation c'est presque le contraire en fait, parce que les Borg quand ils assimilent des humains, ils les mécanisent, ils leur ajoutent des éléments technologiques. Et comme lui, il est entièrement technologique, il y a le sens où elle lui rajoute des éléments organiques. Voilà, et puis à un moment donné, on pense qu'elle a réussi à le convaincre. Et puis, il s'ensuit au final la confrontation où Picard va... Donc l'équipage évacue, Picard lance l'autodestruction du vaisseau, et il va chercher Data, parce qu'il ne veut pas l'abandonner. Et donc il y a une confrontation avec la Reine Borg est détruite. Il y a aussi une séquence, alors je sais plus où elle est dans le film, où ils veulent empêcher les Borg d'envoyer un signal. dans le
parce oui, qu'il juste avant.
C'est juste avant, d'accord.
Mmh, juste avant l'autodidacte.
Ok. Ouais, désolé, ma mémoire est voilà ce qu'elle est. Et donc ils vont faire une sortie extravéhiculaire dans le vaisseau pour détruire les Borg qui essaient de d'envoyer leur signal à partir du déflecteur. La coupole du déflecteur, et donc ils finissent par devoir détacher la coupole du déflecteur et la détruire. Voilà, et sur Terre, ils arrivent à canaliser les errances de Zephram Cochrane. Ils arrivent à faire en mettre en place le Phénix, à le lancer et à passer en distorsion. Et ça finit donc grande révélation pour l'époque. On apprend que donc ceux qui ont détecté la signature de distorsion, c'est les Vulcains. Et donc ils atterrissent sur Terre et ils rencontrent et ben les humains qui sont là, dont Zephram Cochrane qui va se faire un peu l'ambassadeur d'humanité pour ses débuts, et ça se finit là-dessus.
Ah oui, d'ailleurs, on ne sait plus comment ils reviennent dans le temps présent les explorateurs de l'Enterprise.
Ah, en gros, ils ont l'air de dire qu'ils de mettre l'hyperespace en route.
Pardon ?
Bah, en gros, c'est comme ça que je l'ai compris.
Non, mais je n'ai pas compris ce que tu as dit, en fait.
Ah, en gros, ils font genre que c'est juste une manipulation de l'hyperespace, quoi.
Ah, d'accord.
Comme quand ils passent en hyper vitesse.
D'accord, sûrement un effet voilà. Slingshot. Ok.
Ouais. De toute façon, le voyage dans le temps, c'est pas un truc... Enfin, c'est un truc qui est assez maîtrisé dans Star Trek, puisque dès la série originale, on voyait qu'il faisait parfois du voyage dans le temps pour aller étudier des périodes historiques. Donc voilà, c'est pas spécialement un problème, ouais. Sauf quand ça arrive par accident.
Alors, de manière générale, Charles, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ?
Eh bien, très bon film. J'ai adoré. Après, je pense que ton petit message disant il serait bien de voir les épisodes, je sais plus lesquels, de la saison 3 et 4, c'est ça ?
Best of Both Worlds.
Voilà. Je pense que ça m'a vraiment aidé à apprécier le film à sa juste valeur, quoi. Parce que j'aurais certainement été complètement perdu, je pense.
Ouais. Voilà. Je comprends.
Mais après, en lui-même, du coup, le film passe vraiment très bien, quoi.
Super. Et toi, Thierry ?
Je vais pas dire que c'est mon préféré parce que je sais pas, mais enfin non, c'est pas mon préféré puisque c'est Star Trek 6, mais bon voilà, il est dans le top 3. Je sais pas si c'est la seconde ou la troisième place. Ça doit être le film Star Trek que j'ai le plus vu.
Ouais.
Parce que tous les 5 avril, je le revois depuis 2013. voilà, pour le First Contact Day. Et puis je l'ai revu en plus d'autres fois à côté, donc ça commence à faire pas mal.
Ouais, au moins une dizaine de fois. Ouais.
Ouais. Voilà. D'où mon résumé qui était un peu pourri, mais pas si pourri que ça.
Non, mais c'est bien de mémoire. Donc avril, ça fait mai, juin, juillet, ça fait seulement 3 mois que tu l'as vu. Et bref, la dernière fois. Moi aussi, c'est un de mes. C'est le film que j'ai le plus vu de Star Trek, mais un peu par hasard en fait, parce que pour les 20 ans du film, je me le suis refait, et du coup, ça a fait que je l'ai vu une fois de plus que tous les autres que j'ai vus 3 fois, donc 4 fois. Voilà. Bref. C'était un coup de bol. À part le numéro 1, qui, lorsque je le reverrai pour l'émission, ça sera le film que j'aurai le plus vu également. Bref. Et ouais, c'est un excellent film. Et en toute honnêteté, quand je l'ai revu la dernière fois pour préparer l'émission, je me suis dit, je vais essayer de m'axer sur tous les mauvais côtés de ce film pour essayer de réfréner l'ardeur autour de ce film, comme j'avais fait avec le deuxième, avec La colère de Khan. Et j'ai pas réussi. parce qu'en fait, j'ai trouvé très très peu, mais vraiment très peu de mauvais côtés. Alors, Sekin le disait sur le chat, dès l'intro du film, on est envoyé dans l'histoire avec cette double, cette double inception de Picard qui d'abord rêve des Borg, puis il rêve qu'il est assimilé, et après il se réveille réellement, et il y a réellement les Borg qui sont en train d'attaquer. Ça commence sur un peu sur sans parler de chapeau de roue, ça commence direct. On est dans le film, on est happé. Malgré le défaut que soulignait XP, et que tu as rappelé Charles, si on n'a pas vu au moins ce double épisode Best of Both Worlds, c'est un peu compliqué de rentrer là-dedans. On nous parle de concepts et de personnages qu'on ne connaît pas forcément. Donc je me dis qu'en 96, quelqu'un qui se dit « Tiens, je vais aller voir Star Trek au cinéma », il doit se dire les 10 premières minutes, 10-15 premières minutes, « What the fuck, dude ?» Enfin bref.
Bah, pas forcément.
Tu crois ?
Moi, je sais que j'ai un copain qui... je crois qu'il a vu sur... Il a vu deux Star Trek en tout, que ça soit film ou série. Je crois qu'il a vu que First Contact et Nemesis. D'accord. Et j'ai pas l'impression, c'est des films qu'il aime bien, et j'ai pas l'impression qu'il est que ça l'ait gêné de pas savoir ce qui s'est passé. C'est dit dedans de toute façon que Picard a été assimilé, donc tu le sais.
Oui.
Même si t'as pas l'émotion que tu vois à quoi ça correspond de ce que t'as vu dans la série. Tu le sais intellectuellement au moins, donc ça te bloque pas dans l'histoire. Et ce que sont les Borg, ben tu le constates assez vite, quoi. Donc voilà, je pense que ça a forcément pas le même impact que quand t'es fan de la série et que tu sais vraiment ce que représentent les Borg. Mais ça en a suffisamment, je pense, pour être vu par des gens qui connaissent pas.
Ouais, je sais pas, mais par exemple, moi je me souviens que t'as l'assimilation de Picard qui est expliquée sur un petit écran de texte, mais si t'as pas vu la série Deep Space Nine, tu comprends pas pourquoi, par exemple, Worf ne fait pas partie de l'équipage.
Ouais, mais si t'as pas vu les séries Star Trek, tu sais même pas qui c'est Worf, donc c'est pas gênant.
Ouais, mais si t'as vu juste Generations. Il y était dans l'équipage, on le mène, ouais. on le canonise First Commander, non, Lieutenant Commander, enfin bref, c'est un peu particulier. Bon, ça reste du petit détail. Charles, est-ce que tu as de mémoire du double épisode ou pas trop? Je te demande.
Je l'ai regardé la même journée en fait.
Ouais, ça va. Tu l'avais trouvé comment ce truc?
J'ai moins aimé que le film. Ouais. Voilà. Notamment parce que du coup, j'avais pas forcément l'affect avec les personnages non plus, puisque j'ai regardé très peu d'épisodes. Donc c'est un peu compliqué par rapport à ça, mais sinon, le film en lui-même, les épisodes en lui-même sont plutôt sympas à regarder.
Ouais.
Mis à part ces petits problèmes de personnages, on va dire, voilà.
Oui, c'est sûr que c'est
sorti du contexte. Ouais.
Surtout que je trouve que ce double épisode a une place assez importante dans la série, parce qu'on est à la fin de la troisième saison, qui est une saison de... Enfin, je trouve que c'est une saison particulièrement impactante, désolé, de Next Generation. Et je trouve que conclure la saison 3 là-dessus et démarrer la quatrième qui... Pareil, fait partie des les sept saisons font partie des sept meilleures saisons de TNG selon moi, mais enfin bref, je trouve que la position de ce double épisode dans la série est assez important. Bref.
Par contre, je pense que les gens ont dû péter les câbles à l'époque.
Oui, surtout qu'il y a 2-3 mois d'écart entre la première partie.
Mais c'est ça, c'est que la fin de la première partie, quand même, qui clôture la saison 3, du coup, est dégueulasse.
La fin mais ouais, c'est clair. Mais je pense que c'est un des. Ça doit être un des cliffhangers les plus marquants de la science-fiction, je pense, télévisuelle.
Ouais,
alors il y a XP78 sur le chat qui dit ce qui me dérange c'est le vortex temporel, il sort d'où? C'est la sphère Borg qui le génère en fait.
Voilà, les Borg, en fait, ont pour plan d'aller dans le passé de la Terre et de l'assimiler dans le passé. Et en fait, c'est eux-mêmes qui génèrent le flux et le vortex, et l'Enterprise est aspiré dedans. C'est pour ça qu'il est mis à l'écart du danger, et que d'ailleurs, il a le temps de détruire la sphère. Alors, le film s'ouvre sur un générique avec un thème, mais d'une beauté. D'une beauté. Si je dis pas de bêtises, c'est la dernière fois que... Ça y est, j'ai perdu. J'ai perdu le nom. Vite, il me faut quelqu'un pour m'aider. Le compositeur. Thierry? Non.
Ah,
Non. Non, c'est pas.
Merde.
non. Désolé. Oui, voilà. Merci XP, Jerry Goldsmith.
Jerry Goldsmith, voilà, il me semble que c'est le dernier thème que Jerry Goldsmith aura fait pour Star Trek. Il le fait avec son fils Joël. Et voilà, et après ce film, il va faire une dernière composition pour un film qui n'est pas sorti et il décède dans la foulée. Oui, salut, c'est Rémi. Alors, évidemment, je me suis complètement planté. Jerry Goldsmith n'est pas du tout décédé après Premier Contact. Il est décédé en 2004, soit 8 ans plus tard, après avoir fait la musique du film Insurrection, qui est pourtant mon thème favori, et je sais que c'est Goldsmith qui l'a fait, je suis complètement bête. Et même le film Star Trek Nemesis. Et c'est pour Star Trek Nemesis qu'il a travaillé avec son fils Joël. Et le film dont je cherchais le nom qu'il avait fait mais qui n'a pas été diffusé, c'est Prisonnier du temps, Timeline de Richard Donner, dont les partitions, on n'a pas utilisé les partitions de Jerry Goldsmith. Voilà, désolé, une fois de plus, je prouve mon incompétence. Bonne écoute à toutes et à tous, à bientôt! Et je trouve que le thème est magnifique. Alors, c'est pas mon préféré de toute la cinématographie. Ce sera celui d'Insurrection. Je l'ai déjà dit 4000 fois. Mais je trouve ce thème superbe. Le générique de début, qu'est-ce qu'il est pourri, Charles.
J'avoue, ça donne pas du tout envie de regarder le film.
Ah ouais, t'as écran noir, des titres en bleu qui arrivent, qui
Titre en
s'affichent.
bleu, ouais.
Ah ouais, ça, t'as l'impression d'être dans le
Ça m'a
premier
fait
film
penser à
Star
Star
Trek.
Wars, en fait.
Ah
Ça m'a
oui,
fait
ouais, t'es
penser
un peu.
à Star Wars.
Ouais, c'était assez incroyablement nul, mais bon, bref. Et par contre, les premiers effets spéciaux, donc l'effet là, quand. Picard se regarde dans le miroir et qu'il y a l'espèce d'assimilation qui commence à se faire. J'ai trouvé que c'était assez bien géré.
Ouais, c'est assez impressionnant. Ouais.
Visuellement aussi, il y a des jolies choses. Le premier grand plan du film, c'est on voit l'Enterprise E sur le fond d'une nébuleuse. Donc il y a des reflets un peu violet-bleu. L'Enterprise qui est magnifique, il est pris dans un angle un peu particulier qu'on voit pas très souvent. Il est en contre-plongée, mais il est en train de se retourner vers nous. Enfin, j'ai trouvé que visuellement, le début du film commence bien. Les
Et
effets
puis la
spéciaux.
bataille. La bataille aussi est très impressionnante.
La bataille est vraiment pas dégueulasse. Mais
Ouais.
après, le reste des effets spéciaux, j'ai trouvé un petit peu moyen par moment. On en parlera peut-être plus tard, mais l'incrustation de la Terre depuis l'intérieur de l'Enterprise, c'est très bizarre, c'est pas très joli. Mais oui, la bataille est très impressionnante. Bien que j'ai préféré, mais bon, ça, il faut avoir vu la série, celle de. Deep Space Nine, la bataille contre le Dominion qui est
Ah ouais, non,
époustouflante.
mais y a rien qui dépasse les batailles de Deep Space Nine de toute façon, donc c'est compliqué de comparer.
Alors c'est moins grandiose, mais c'est plus nerveux. Les dogfights de Battlestar Galactica sont sont magnifiques aussi. Quand t'as les vaisseaux là qui partent sur fond de tambour, là, t'entends. Ça, c'était... Enfin, c'est pas la même chose. Je continue en lisant mes notes. Vous me dites si vous avez des choses.
Ça marche. Enfin, ouais, c'est les notes. Bon, bref.
J'aurais pas d'anecdote façon Matou. Hein, désolé, notre Mister Dico n'est pas là. Notre Mister IMDB, parce qu'il a avoué que tout venait de IMDB. J'ai remarqué qu'en fait, il y avait très peu de décors dans ce film. Alors, on a le vaisseau depuis l'intérieur, la base humaine. Bon, il y a quelques plans, mais c'est surtout de la forêt, quoi, canadienne, enfin nord-américaine. Et la partie du vaisseau en forme de base Borg. Et en fait, voilà, ils ont réduit le budget en faisant des très beaux décors, certes, mais très peu. Voilà, on filme dans certains angles. Voilà. C'était une petite astuce assez sympa. Ah si, on a un petit décor également quand on va dans le holodeck, on nous recrée une petite salle façon années 50.
C'est très sympa. C'est vraiment très sympa.
Ouais. C'est qui nous demande comment les Borg ont envahi l'Enterprise. En fait, lorsque l'Enterprise sort du vortex temporel et détruit la sphère Borg, ils n'ont pas les boucliers levés et ils ne sont pas rendus compte qu'en fait une petite poignée de Borg s'était téléportée sur le vaisseau, ce qui nous donne d'ailleurs une scène à la Alien assez
assez très sympa,
ouais, oui. Assez comment on dit, glaçante.
Oui, et puis c'est même dommage qu'ils aient montré les Borg avant, en fait.
Ouais.
Ils n'auraient pas tout démontré et faire comme Alien, faire découvrir les Borg petit à petit. Bon, après, du coup, comme ils sont dans la série avant, voilà, mais par rapport au film, c'est vrai qu'il aurait peut-être gagné en intensité.
Ouais, excellente scène d'assimilation d'une violence assez bonne, ouais. Parce que c'est caché. Je me pose la question par contre, si la forge était restée à bord, est-ce qu'il n'aurait pas empêché l'invasion ou est-ce qu'il aurait été le premier assimilé? Parce qu'en fait, il donne l'ordre à un type, je sais pas qui, lieutenant machin, en gros, c'est lui qui est aux commandes, et ce type, c'est lui qui se fait assimiler en tout premier. Et je me pose les questions, mais bon, ça, c'est les questions totales et permanentes de, et si ils étaient restés à bord, si Picard était resté à bord, si Picard n'était pas remonté avec Data, etc., etc. Mais bon, ça c'est toujours la même chose. C'est des questions bêtes qu'il ne faut pas se.
Bah, d'ailleurs, lui-même, le film peut être vu comme un et si. Et si les Borg avaient essayé d'empêcher le premier contact.
D'ailleurs, on aura dans la série Enterprise, alors ça n'a rien à voir, mais dans la série Enterprise, on aura le et si l'humanité avait défoncé les Vulcains lors du premier contact, avec Cochrane qui sort un fusil à pompe de son dos et qui tue l'ambassadeur Vulcain, qui était très drôle. Excusez-moi. Alors, point négatif, parce qu'il ne faut pas déconner, hein, il ne faut pas
lancer
que
même.
Des fleurs. Oui. Ben, un point négatif justement avec Cochrane, en fait, qui fait enchaîner le film entre humour et sérieux, très sérieux, de manière très abrupte. De manière générale, en fait, quand on est sur Terre et qu'on a Cochrane qui évolue dans sa mentalité, même si l'évolution est bien écrite, je trouve, le ton est très léger. On a Diana Troy qui se bourre la gueule et qui dit des bêtises à Riker. Cochrane qui boit un coup de whisky et qui imite Jack Nicholson dans Easy Rider. On a plein de petits trucs comme ça, donc c'est très rigolo. Et bam, on enchaîne avec Picard en train de en plein pétage de plomb, parce que les Borg sont en train de d'assimiler son vaisseau très sérieusement. Et c'est vraiment c'est très dur, et voilà.
Bah alors moi c'est pas pour défendre le film, parce que je pense pas qu'il en ait besoin, mais je trouve que justement ça fait partie de ce qui rend les scènes dans l'Enterprise plus marquantes, parce que justement t'as le contraste qui, enfin, le fait qu'il y ait un contraste, ça accentue les choses.
Oui, et puis ils le font bien. Pour prendre un exemple récent, parlons de Marvel, qui mettent de l'humour partout. Les scènes d'angoisse et de tension, on va dire, sont entrecoupées de scènes comiques, mais qui se passent pas au même endroit. Ce n'est pas le héros qui est badass, qui est en train de faire son action comique, qui balance la punchline. Donc du coup, l'effet est complètement différent. Sur Marvel, ça va désamorcer toute l'action, puisque c'est en plein milieu de l'action, et là, en fait, c'est un autre endroit, c'est un autre groupe, donc ça fait pas du tout le même effet, je trouve.
C'est vrai. Après, on peut voir les scènes légères comme un moment de respiration, de souffle, pour voir...
Non, mais c'est ça. Et ça rentre très bien. Contrairement à Marvel, qui fait ça en plein milieu de l'action, mais avec les mêmes personnages, sans forcément de coupure, ou t'as Iron Man qui va balancer une vanne et tout ça, et qui va désamorcer, en fait, l'action.
D'accord. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est totalement vrai ce que tu dis. Enfin, je suis d'accord. Alors, tiens, petite question, Dragor. Alors, bon, je sais que ta spécialité, c'est les Klingons, hein, désolé. Mais j'ai jamais compris pourquoi, particulièrement dans ce film, les Borg ne cherchent pas à assimiler directement les membres des équipages qu'ils croisent. Parce que dans les séries, c'est bien compréhensible qu'ils n'essaient pas, parce que ben ils ne représentent pas un danger. Mais là, les Borg, ils sont sur l'Enterprise pour l'assimiler.
Tu veux dire quand tu parles de la scène où Picard et Lily passent au milieu des Borg et que...
Ouais, mais même Worf à un moment dit baissez vos armes. Worf dit à son groupe à un moment baissez vos armes, ils ne réagissent qu'à la violence. Et c'est pas des T-Rex, quoi.
Ben, alors moi je dirais que au stade où ils en sont, ils doivent estimer avoir assimilé suffisamment de personnes pour pouvoir assimiler le vaisseau en lui-même, et que après, une fois qu'ils auront assimilé le vaisseau, ils auront tout le temps de s'occuper des personnes qui restent. Ce qui est un mauvais calcul du coup, parce que ben ça va pas marcher, mais voilà, je pourrais expliquer ça comme ça.
Ah, mais c'est vrai que ça a failli marcher d'ailleurs, hein, parce que le signal, ils ont bien failli l'envoyer, hein. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, pourquoi pas. Mais j'avais pas réfléchi à ce point. Qu'est-ce que vous avez pensé du personnage de Lily, Charles ?
Je l'ai plutôt bien aimé en règle générale. Après, c'est pas le personnage qui m'a le plus touché dans le film personnellement. Moi, les personnages vraiment où je l'ai trouvé qu'ils avaient un travail, on va dire, au niveau de l'écriture du personnage, c'est bien sûr le capitaine, du coup, Jean-Luc Picard, qui est vraiment très très bien écrit avec, du coup, sa guerre interne, on va dire, entre sa tension de la peur de redevenir Borg, plutôt, et la souffrance qu'il a endurée en tant que Borg. Et son côté humain, donc il est vraiment penché entre les deux, j'ai trouvé ça vraiment très très bien foutu. J'ai bien aimé aussi le Klingon, j'ai oublié son nom, Worf, voilà. Worf aussi, j'ai trouvé que son traitement était vraiment pas mal, mais Lily m'a pas plus intéressé que ça, quoi. Je l'ai trouvé très secondaire, en fait, en personnage.
Moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup. J'aurais bien aimé qu'on sache un peu plus quel rôle elle a joué dans l'invention du moteur à distorsion. Parce que finalement, on la voit traîner avec Zefram Cochrane, on la voit aller dans la base, mais on ne sait pas exactement ce qu'elle a fait, ça c'est dommage.
Son boulot, c'était surtout d'empêcher que Cochrane se bourre trop la gueule, je pense. Parce que première scène où on la voit, elle lui dit « arrête de boire ». Mais apparemment, elle devait monter avec lui dans... Oups là, désolé, je tape dans mon micro. Apparemment, elle devait monter avec lui dans le vaisseau, parce que c'est sa première ligne de dialogue, c'est « je ne vais pas là-haut avec toi, ivre-mort, oui. » ou « je démarre pas une fusée » comme ça. Je sais plus quoi, mais ouais, comme toi, ouais, Thierry, c'est un personnage pour qui j'ai beaucoup d'empathie. J'apprécie beaucoup.
J'aime bien le fait que passé le premier choc, enfin même pas, parce qu'en fait, si elle s'évanouit, c'est à cause des radiations, quoi. Mais elle est très débrouillarde. J'aime bien son côté très débrouillard. Très ok, je suis dans une situation complètement improbable où je comprends rien, mais je vais quand même me débrouiller toute seule. Je vais prendre une arme, je vais essayer de me défendre, je vais menacer des gens. Il y a ce côté naïf qui est dû au fait que c'est totalement improbable de se retrouver dans un vaisseau spatial quand t'es en train de construire le premier. Donc il y a ce côté qui est touchant parce que du coup elle comprend pas tout, c'est un peu le spectateur qui connaît rien à Star Trek quoi qui est là. Mais elle a aussi ce côté frontal où elle va pas hésiter à dire ce qu'il y a à dire, elle va pas hésiter à faire ce qu'il y a à faire quand elle va avoir la sensation qu'il faut le faire.
Elle laisse aucune chance à Picard.
Et ça c'est vachement bien. Oui, et justement, ouais, elle tient tête à un mec du 24e siècle comme Picard, qu'en plus c'est un bon contrepoint justement. Et c'est vachement intéressant. Et après, tu peux comprendre qu'en traînant avec un mec comme Zefram Cochrane, elle a l'habitude de savoir se faire entendre, mais mais voilà, c'est un personnage qui est assez nuancé et qui est pas mal.
Ok, j'ai noté un truc, mais par rapport au mot contact, mais on y reviendra à la fin. Vous me rappellerez qu'il faudra y revenir à la fin. Il y a un truc sympa qui se passe sur Terre. En fait, on se rend compte que Riker, Troy et La Forge, ils passent leur temps à expliquer à Cochrane ce qu'il va devenir, c'est vrai, mais surtout, en fait, ce qu'est Star Trek. Et ils passent leur temps à expliquer ce qu'est la civilisation humaine du 24e siècle. Alors, il y a eux, mais il y a également la conversation entre Picard et Lily, dans laquelle ils expliquent qu'il n'y a plus d'argent, etc., qu'on base notre vie sur d'autres choses. En cela... Oui.
Non, c'est la première fois que c'est dit explicitement dans les films, en fait.
Voilà. En cela, je pense que c'est vraiment un film qui peut être intéressant, malgré les défauts qu'on en disait au début, de montrer à quelqu'un qui souhaiterait découvrir Star Trek. Bam, ça te pose des bases. Toi, tu représentes le personnage du 21e siècle, tu rencontres le personnage du 24e, et voilà comment ça se passe chez nous. Voilà ce qui va se passer. Pardon. Charles, ça t'a plu ce côté-là ou...
Ah oui, complètement. Après, je l'ai trouvé très lourd. Mais d'un autre côté, c'est compréhensible. Avec Zefram Cochrane, pardon. J'ai trouvé très lourd et très insistant. Du coup, ils lui ont fait peur, en fait, hein, littéralement, à un moment. Mais après, c'est compréhensible. C'est un petit peu comme si nous, on rencontrait une figure historique qu'on a étudiée dans les livres d'histoire. Et qu'on se rend compte, il y a lui, je connais son histoire, je connais tout, et j'ai envie de, voilà, de, il y en a un, justement, qui veut prendre une photo avec, voilà.
Ouais. Barclay. Ah oui, Barclay, d'ailleurs, t'as pas dû capter qui c'était, ce gars. C'est Cornichon, qui a une histoire
non,
très intéressante.
Non, c'est Brocoli.
Brocoli, pardon. Qui a une histoire très, très intéressante tout au long de la série Enterprise, Next Generation et Voyager. Oh. Et qui sera repris comme un des personnages principaux d'une série de comics également. Enfin bref, c'est un personnage un peu asocial, mais qui est très cool une fois qu'il dépasse ses problèmes. Qu'est-ce que vous avez pensé? Bon, c'est facile comme question, hein, mais au tout début du film, on a l'ambiance sonore des Borg. On a Picard qui reçoit un appel, je sais plus quoi. Ah oui, non, lorsque Picard décide finalement d'aller au combat, ils ouvrent l'audio et là on entend les Borg qui lancent leur fameuse We are the Borg, etc., etc. Et oui. Je sais pas si vous avez capté, mais là à ce moment-là, poum, plus aucun bruit, pas de musique, pas de bruitage sonore. Voilà, à écouter au casque, c'est d'une qualité exceptionnelle.
We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. We will add your biological and technological distinctiveness to our own. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile.
Ah, c'est pour sortir la puissance, on va dire, des Borg et leur assurance.
Mm. Ouais, bah moi, il y a 3 mois, quand je l'ai vu, j'ai pas écouté au casque, donc je sais pas, mais oui, de toute façon, ça c'est un truc. Bon, après, quand t'as vu les séries, c'est pas la première fois que tu l'entends, mais il y a ce côté, ce que dit Charles, l'assurance, c'est même pas de l'assurance en fait, c'est le côté implacable. C'est un peu comme presque une catastrophe naturelle, quoi. Ça va arriver, et tu peux rien y faire, et voilà. Donc c'est, il y a ce côté glaçant du côté même automatique de ce qui se passe, quoi.
Inéluctable.
Parlant du côté automatique, est-ce que c'est pas un peu trop rapide l'assimilation?
Ah, ça paraît une vitesse. En fait, ce sont des nanomachines qui vont direct dans ton cerveau et bam, c'est fini en une seconde.
D'accord, ok.
Ah oui,
okay.
C'est
vrai, vitesse. Que c'est très impressionnant en fait de les voir, surtout quand tu sors de la série où tu vois Jean-Luc Picard qui est sur une table d'opération machin et tout, à être transformé petit à petit, assemblé un petit peu à la Dark Vador dessus.
Ah,
et ouais, ça m'a fait penser à ça. Et par contre, l'équipage, eux, juste on les touche et puis c'est fini, quoi. C'est vrai que c'est assez perturbant, on va dire.
Ouais, c'est vrai. Il y a deux. Alors, un truc qui peut expliquer ça, c'est tout simplement que comme ils connaissent mieux la physionomie humaine à ce moment-là, justement, comme ils ont étudié Picard notamment. Ils peuvent assimiler plus vite, on peut voir ça comme ça. Il y a aussi que le Picard, c'était un projet particulier aussi pour eux.
Oui.
C'est peut-être pour ça que c'est plus long.
Et puis c'était la première fois à l'écran qu'on voyait une
assimilation.
C'était la première fois qu'on voyait une assimilation, donc il fallait vraiment la montrer étape par étape en visuel durant la série, parce que après les assimilations qu'on voit durant Voyager, par exemple, sont beaucoup plus rapides. Elles sont assez proches de ce qui se passe dans le film, d'ailleurs. Et du coup, je sais pas. Enfin, bref. En parlant des Borg, alors, Thierry, tu parlais de la magnifique conversation entre Picard et Lily lorsque Lily le convainc de changer d'avis. Mais on a un dialogue sur, je sais pas, 4 ou 5 scènes entre Data et la reine Borg, où la reine est en train d'essayer de le persuadé de rejoindre les Borg, qui est d'une puissance incroyable, notamment la première scène, avant même qu'on la voit, on entend sa voix un peu partout, il regarde et tout partout, et ça c'est la première scène où ils se parlent, et j'ai trouvé cette conversation assez fascinante. Et ce n'est que dans la deuxième scène qu'elle arrive, et qu'on a d'ailleurs cet effet visuel d'une qualité incroyable.
Ils ont été récompensés pour ça d'ailleurs.
Mais le film a 20 ans, et si tu regardes vraiment, il y a à peine le visage qui a un léger décalage, mais je crois que je l'ai vu parce que vraiment j'étais sur grand écran, mais je suis pas sûr qu'on voit encore le trucage. Hein.
Bah écoute, à chaque fois j'essaie d'y faire attention et je capte rien du tout. C'est ce qui est, ils ont été récompensés surtout parce qu'en fait elle se met à marcher juste après que sa tête se soit ancrée sans quête. Et c'est ça qui a été fou à réaliser à l'époque. Je pense que c'est le plan le plus cher du film. Ils ont une récompense pour ça qui est méritée, je pense.
Et c'est glaçant quand tu vois ce truc. C'est très. Moi, par contre, ça m'a fait beaucoup penser. Alors que ça me l'avait pas fait les fois précédentes, mais ça m'a fait beaucoup penser à la fin de Terminator et Terminator 2 notamment. Le côté rouge et métallique mélangé. Bon, ça, c'est vraiment du détail parce qu'il faut bien quand même des inspirations. Mais c'est d'une qualité incroyable. Et voilà la conversation entre Data et la Borg, la reine. Voilà Alice Kridge, merci, merci, c'est qu'une je cherche depuis tout à l'heure, qui est magnifique. Alors il y a des petites scènes, la dernière scène qu'ils ont en commun, et enfin en commun juste tous les deux, est assez rigolote quand on a quand elle lui fait comprendre qu'il va avoir une relation sexuelle avec elle et qu'on dirait un petit adolescent. D'ailleurs, il rappelle que la dernière fois qu'il a fait l'amour, c'était 7 ans, etc., quelques mois, je ne sais plus quoi. Et si je dis pas de bêtises, c'est lorsqu'il a fait l'amour dans le deuxième épisode, voilà, avec Tasha Yar.
Incroyable. Oui, oui, c'est ça.
C'est un clin d'œil à Tasha Yar, j'aurais jamais pensé ça. J'aurais jamais vu ça arriver dans un film Star Trek. Je trouve ça cool.
Ouais, oui, c'est bien comme référence de pas oublier ça, ouais.
Ouais. Très sympa.
Moi, il y a un truc qui m'a déplu la première fois que j'ai vu ce film, qui est pas vraiment un défaut parce que clairement c'est plutôt une qualité du film même, mais c'est justement le fait qu'on revienne sur la simulation de Picard et sur les conséquences psychologiques de celle-ci, parce que pour moi je considérais que c'était terminé. Pas pour lui, parce que c'était le genre de traumatisme qui me marque à vie, mais j'en sais rien, j'ai jamais été assimilé, mais je suppose. Parce que ça a déjà été traité dans la série, dans Family, et qu'il a vécu plein d'autres trucs traumatisants après. Il a notamment été torturé par un Cardassien pendant 2 épisodes.
D'une horreur.
Et du coup, pour moi, c'était. Il n'y avait pas forcément besoin de revenir dessus. Et du coup voilà, c'est un truc que j'ai pas apprécié au départ dans le film. Maintenant ça me dérange pas plus en tout cas, parce que ça fonctionne bien et que c'était une bonne manière d'amener un propos intelligent et nuancé dans le film, donc c'est bien de l'avoir mis, mais voilà, c'était un truc qui m'avait gêné au départ.
On va dire que c'est peut-être le fait aussi que Picard ne réagisse pas tant que ça, que son équipage est en train de se faire dessiner.
Ah ouais, peut-être il est stoïque. Aussi.
Il est stoïque complet, et c'est vrai que c'est presque perturbant. On dirait qu'il en a rien à faire. Et le voir péter les plombs sur des Borg, alors en plus, sur les Borg pour son assimilation, qui s'est passée il y a 6 ans, alors qu'il y a son équipage qui est en train de se faire décimer, qui aurait pu être une bonne raison supplémentaire, le dire oui, j'ai été assimilé, et en plus, ils viennent de liquider tout mon équipage, ça aurait pu donner un peu plus d'ampleur, à la chose, je sais pas.
C'est vrai.
Ah ouais, c'est vrai. Ouais.
Ça aurait pu être la goutte d'eau qui fait déborder le vase qui était plein depuis un moment mais qui était pas vraiment sorti et puis. Voilà.
Parce qu'il y avait une anse. Du coup, l'eau, elle est repassée par la anse. Du coup, ça débordait pas trop au début. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, j'avais zappé, c'est que après donc ce double épisode durant lequel Picard est assimilé, l'épisode Family, il va sur Terre et il retrouve son frère et son neveu, René, qui est mort dans le film Génération. Et du coup, ça fait 2 fois qu'on fait un lien avec cette courte période très très rapide de... Enfin, très rapide, non, c'est pas rapide. C'est vrai que c'est intéressant, ça, de... je sais pas, il y a quelque chose à creuser. Je sais pas. Peut-être qu'il est... Ouais, non, je sais pas.
Bref, de toute façon, l'épisode Family, il est important dans l'évolution de Picard. Hein. T'as tous les clichés sur les Français qui sont réunis en 40 minutes.
Il
n'y
a pas
minutes,
de baguette
mais,
de pain.
mais bon, ouais, il est vachement important dans son développement parce que t'as justement ce qui lui permet de revenir un peu, parce qu'en fait Best of Both Worlds c'est presque un triple épisode, parce que Family c'est vraiment la suite directe. Il faudrait presque regarder les 3 en fait avant de regarder First Contact, mais donc il y a ça sur sa psychologie vis-à-vis de qu'il a vécu avec les Borg, et en plus il y a son lien avec la famille, ses relations conflictuelles avec son frère, etc., qui sont vachement vachement importantes, quoi.
Ouais. Je change de sujet. Charles, tu l'as vu en VO ou en VF celui-là ?
VF.
Alors, c'était bien ?
Il n'y a rien qui m'a choqué.
Ok. Normalement, là, on est dans les années 90, donc les doublages sont... enfin, ça fait une vingtaine d'années qu'on maîtrise vraiment sérieusement le travail,
oui.
Il me semble.
Après, il y a sur... alors, je sais pas en VF ce que ça donne, mais alors les sous-titres, c'est une catastrophe au niveau de tout ce qui est technologique.
Ah, mais
c'est hyper exponentiel, le machin. Ok. En tout cas, les sous-titres de mes DVD, c'est vraiment catastrophique.
Non, mais alors, c'est pareil sur les Blu-ray, ils les ont pas refait. Je sais pas si tu te souviens, on avait commencé à en parler, je crois, avec le... je sais pas si c'est pas avec des retours sur Terre qu'ils ont commencé à péter les plombs à partir dans des mots d'une... connerie abyssale. Peut-être pas Retour sur Terre, mais dès le cinquième ou le sixième, je sais plus. Enfin bref, c'était du gros n'importe quoi. Non, c'était pour savoir si la version française, la voix de Jean-Luc, était belle ou pas.
Non, très bien.
Y a une très très belle scène également dans l'espace. Lorsque l'équipage sort sur la coque de l'Enterprise pour empêcher les Borg de créer un signal spatial, on a une. Ben, forcément, on est dans l'espace, du coup, on a un changement de rythme, on a un changement d'ambiance, et on a une très jolie musique qui sera reprise 20 ans plus tard par les jeux vidéo Mass Effect, hein, qui est la musique d'exploration dans le premier jeu, je crois. Et je sais pas, c'était rigolo, non, cette scène.
Ouais, la sortie extravéhiculaire, c'est. Alors,
au
je
niveau
crois
de tension, elle est vraiment pas mal. Hein.
Je crois qu'il y a un truc, les proportions sont pas respectées, c'est-à-dire qu'ils ont réduit un peu la taille de l'Enterprise et du déflecteur pour pouvoir faire le décor, en fait. Mais malgré ça, malgré le fait qu'il est réduit par rapport à ce qui est censé être la taille réelle, on a vraiment une sensation de l'immensité du vaisseau, quoi. Quand tu les vois marcher sur la coque de loin, ça c'est gigantesque. On voit le gigantisme de l'Enterprise, chose à laquelle on fait pas forcément toujours attention dans les séries, quoi. On sait que c'est très grand, mais on se rend pas compte à quel point, quoi.
Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que du coup, maintenant que tu le dis, en fait, il est même très petit. Alors que ben, j'aurais vu ça de la taille d'un immeuble ou un truc comme ça. C'est vrai. On le voit notamment dans le... Je sais plus si c'est le film de 2009 ou Into Darkness, où on le voit se faire assembler, il me semble. Et que c'est... On se rend compte du gigantisme de la chose.
Ah non, mais l'Enterprise de 2009, il est encore plus gros que les autres, en fait.
Ah.
Je crois que c'est le plus gros des Enterprises, je crois.
Ah. Ah merde.
Oui, parce que tu sais, J.J. Abrams, il aime bien les gros trucs, donc il a fait plus gros.
D'accord. Il y a un acteur, un nouvel acteur, dont je n'ai pas noté le nom, qui pourrait être sympa, qui n'a pas beaucoup de dialogue, mais qui est rigolo à suivre, qui jouera dans quelques années plus tard dans Desperate Housewives, qui est un espèce d'officier de passerelle, qui se fait assimiler d'ailleurs durant cette scène d'exploration. Et, qui, je sais pas ce que vous en avez pensé. Bon, on n'apprend rien de lui. Je pense que c'est le personnage sacrifiable du groupe.
C'est un red shirt
amélioré
du 24e siècle, quoi.
Ben, je sais pas.
Ouais, je sais pas. Il m'a pas marqué.
En fait, je m'attendais à ce qu'il meure à tout moment et il est mort vers la fin. Donc, je trouvais ça sympa de noter que il meurt à la fin. Ouais, je sais plus. Je vois Sekin en train d'écrire. Je pense qu'il va me dire le nom de l'acteur. Ça, c'est pratique d'avoir un public aussi intéressant. Voilà. Ben en fait, c'est allé assez vite. Ah si. Ouais.
Est-ce que je suis le seul à avoir l'impression que Worf se fait troller dans le film, quasiment tout le film?
Alors,
déjà, il arrive sur le vaisseau. Il y a Riker qui dit que son vaisseau il est petit.
Voilà. Alors que le Defiant, c'est la prune, la perle de Starfleet, mais bon.
Ouais. Et il y a encore Riker qui lui fait une petite vanne, je sais plus laquelle, mais Je sais plus, il lui demande si c'est encore manier le poste de commandement. Il y a Picard qui le traite de lâche carrément. Et après il l'envoie en sortie extravéhiculaire où on lui fait avouer que le dernier entraînement en apesanteur, il avait vomi. Je pense que c'est une petite référence à Star Trek 6. Visiblement les Klingons et l'apesanteur, c'est pas trop, ça va pas trop ensemble. Mais il en prend plein la gueule, quoi.
Mais après, Worf dans celui-là, dans Insurrection également, c'est le comic relief. Hein. Je me souviens plus très bien de Nemesis, mais il est là pour faire rigoler tout le monde. Assimilate this. bon, là pour le coup, c'est pas, il se fait pas troller, hein, c'est lui qui,
non, non, non.
qui prend ça.
Là, c'est sa vengeance pour tout le reste du film. Il a tout mis là-dedans. Alors ça, c'est une scène qui me fait toujours beaucoup rire. Ça fait très très film d'action des années 80, genre Schwarzenegger ou autre. Voilà, qu'il faut faire la punchline avant de.
Ouais.
Avant de tuer son ami. Ça fait presque décalé dans le film, mais bon, ça fonctionne quand même, c'est marrant.
Ouais, mais c'est vraiment. Ouais, c'est une scène très drôle, mais oui, voilà, on a la représentation des Klingons selon Jonathan Frakes, peut-être. Bon, après, ça va être un peu plus sur la philosophie trekkienne que je voulais partir. Donc, je sais pas si vous avez d'autres choses, d'autres scènes qui vous ont marqué. Non.
Oui, mais je pense qu'on les a toutes dites, en fait.
Ouais, les plus importantes, les plus marquantes.
Si. J'ai pas grand chose à dire dessus, mais juste la scène où Picard touche la coque du phénix.
Voilà.
Et que Data se demande pourquoi il la touche. Et elle est super touchante, cette scène, je trouve. Où il raconte qu'il le voit dans le musée depuis qu'il est gamin, il a envie de la toucher, mais il peut pas parce que c'est un musée et que c'est, voilà. Et là, il le fait, c'est en plus, c'est celle de l'époque. Et Data qui essaie de comprendre la démarche du fait de toucher, il dit que ça paraît plus réel. Et Data, il a, oui, bah, j'ai plus d'informations dessus, mais ça me paraît pas plus ni moins réel. Enfin, il y a ce côté très joli où ils sont tous les deux comme ça en train de. C'est ouais, je sais pas.
C'est parfait que tu aies choisi cette scène parce que c'est via cela que j'allais à partir sur un peu la discussion un peu méta de ce film. C'est le contact en fait, parce que cette scène où Picard touche le phénix renvoie. On a un genre de préparation à la scène où Data sera touché pour la première fois et son ressenti face à cela, où finalement c'est au moment où la reine Borg lui soufflera sur les poils qu'il comprendra enfin ce que ça veut dire pour un être humain que le contact physique avec quelque chose, parce qu'au final l'être humain a besoin de contact, qu'il soit physique ou social. Il y avait également, mais j'ai pas bien noté mes notes du coup, pardon, j'avais fait un parallèle avec Cochrane sur la fin du film et le contact. J'ai marqué que c'était excellent, mais je me souviens plus ce que c'est.
C'est la poignée de main, il essaye de faire le geste.
Oui, c'est vrai, voilà.
Et puis il n'y arrive pas, donc du coup il lui tend la main.
Exactement, voilà, le contact avec le Vulcain à la fin. Il y a voilà, tout le long de ce film, on a des petits clins d'œil. Et j'ai lu, je sais plus où, sur Internet, qu'ils ont hésité pour le titre et qu'en fait c'est vraiment à la limite du temps imparti qu'ils ont fini par choisir First Contact, alors qu'à la base il devait s'appeler Star Trek Generation 2, il a failli s'appeler comment s'appelle Aliens Résurrection, oui. Alien 3 Résurrection, ils ont failli appeler Star Trek Résurrection, alors que ouais, par rapport au Borg qui aurait assimilé la Terre, enfin bref. Et du coup, je trouve que le choix de First Contact, le mot contact était très important, et je trouve ça très beau de la part de toute l'équipe créative d'avoir choisi ce mot-là. Oui. Voilà.
Ouais, c'est vrai, j'avais jamais fait le lien, mais maintenant que tu le dis, ouais, en fait, il y a trois premiers contacts dans le film, quoi.
Ouais.
Quatre?
Ben non, trois.
Attends, et alors il y a le
Il y a
premier
Pi.
contact de Picard avec la coque du Phénix.
Ouais.
C'est la première fois qu'il le touche, donc c'est un premier contact. Il y a le premier contact de Data. C'est la première fois qu'on y touche de la peau, parce qu'il a pas, enfin, il avait une peau synthétique avant. Il y a le contact de Cochrane, ouais, 3.
Après, bon,
Où est-ce que j'ai mis la
peut-être qu'on peut
quatrième?
compter
J'en avais une
Lily,
quatrième en tête, mais
mais
je l'ai
bon,
perdue.
ouais.
Mais, ouais. Ok, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est pas bête. Ah, il y a un truc aussi, c'est la première fois dans une série Star Trek que quelqu'un dit Star Trek.
Ah, bon, alors
Bon,
ça,
alors,
j'ai trouvé.
en VF, ça marche pas. Mais en VO ça marche.
Ouais, j'ai trouvé que c'était un peu poussif. Hein.
Oh,
Mais.
c'est rigolo, c'est bien placé, moi je trouve.
Et alors, vous êtes des astronautes dans un genre de Trek, dans un genre de Star Trek? Ouais, je sais
Bah,
pas.
en anglais ça marche très bien, hein,
Ouais.
franchement.
Ouais.
Ouais, vous êtes des astronautes en randonnée dans les étoiles. Voilà. Bon, moi, j'ai trouvé que ça marchait bien. C'était pas forcément nécessaire, mais c'est rigolo. Donc, il y a une espèce d'ellipse pendant les explications qui sont faites à Cochrane sur ce qu'ils font là, etc., d'où ils viennent. On voit un bout de la fin, je crois. Et du coup, Cochrane résume ce qu'ils viennent de dire à sa façon. Et du coup, il dit, bah, alors, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous êtes des astronautes dans ce genre de randonnée des étoiles. Voilà. Et du coup en anglais ça fait so you're astronauts in some kind of Star Trek. Voilà, ça fait.
Wow, bien joué, bravo pour ton accent.
Ah, d'accord.
Il y a une scène très drôle qui sera reprise 20 ans plus tard comme mème ultime sur Internet. C'est Picard qui tire sur les Borg. Et je sais pas, bah, vous avez dû tous voir ce mème avec Picard avec sa mitraillette qui tire et qui crie. Et en face, il y a Choco des Goonies qui reçoit les balles en faisant bouffi bouffon. Je sais pas si vous avez vu ça. Choco.
Alors celui-là non, mais j'ai vu cette image de Picard en train de hurler, de tirer la mitrailleuse reprise beaucoup. Ouais.
Ouais, okay.
Il y en a une autre aussi que j'ai vue. Ah oui, dans la scène où il parle avec Lily quand il s'énerve à un moment donné. Alors je sais pas comment c'est en VF, mais il dit "The line must be drawn here, this far, no farther." Et en fait, il y en a qui se sont amusés à faire un mème où ils ont dessiné une ligne. Et enfin, ils ont dessiné les lignes qui doivent. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est marrant. Ils l'ont pris au sens littéral, quoi. Et
D'accord.
du coup, c'est rigolo. C'est quand, en gros, il dit que voilà, faut que ça s'arrête là et que ça aille pas plus loin. Et je sais pas comment il dit en VF vu que j'ai pas regardé la VF.
Ah, basiquement, comment tu l'as dit.
Oui,
Voilà.
le
Il faut
parallèle
que ça
avec
s'arrête du coup,
maintenant,
c'est
quoi.
marrant, c'est moins marrant.
Le parallèle avec Moby Dick est sympa, surtout quand on voit le deuxième film, donc la colère de Khan. J'arrête pas de buter avec ce deuxième film, je sais pas ce que j'ai. Donc avec la colère de Khan où ben, Kirk et la baleine pardon, et la baleine de Khan. Je sais pas, je trouve que ça fait ouais. Ouais, bon, enfin bref, c'était bien quand même travaillé, j'ai trouvé. C'était moins méta que dans La Colère de Khan où on a Khan qui regarde la caméra en disant jusqu'au fond de l'enfer, je te crache mon venin ou je sais plus quoi, qui sont les dernières phrases du capitaine Nemo. Non, pas Nemo. comment il s'appelle? Oh, pétard.
Arabe.
Du capitaine Ahab. Merci. Achab? Akab? Non?
Akab, c'est les anarchistes qui disent ça.
Ah bon? Je sais pas.
All cops are bastards. Tous les policiers sont des bâtards. C'est l'acronyme.
D'accord. Ok. Bon, bref. En conclusion, j'ai quand même trouvé. Je me suis rendu compte. Alors, je m'en étais pas rendu compte avec Generations, mais c'est là avec ce visionnage. Ça vient peut-être de la mise en scène de Jonathan Frakes, mais j'ai l'impression que les films de la nouvelle génération, de la next gen, sont beaucoup moins impressionnants visuellement, même s'il y a de très beaux plans, c'est pas la question. Sont beaucoup moins impressionnants que ceux de la série originale de TOS. Peut-être parce qu'en fait, Next Generation est beaucoup plus proche de l'humain et de ses réflexions philosophiques que TOS. Je sais pas si vous vous souvenez, bon, on n'a pas encore parlé du premier film, mais dans le deuxième film, les vaisseaux qui se battaient de loin sur qui étaient immenses dans la nébuleuse magnifique. Dans le troisième film, la planète qui est immense. Le quatrième film, ben, les baleines, hein, les baleines. Ah oui, et puis ce plan magnifique avec le vaisseau Klingon au-dessus du bateau. Enfin, etc. On a eu beaucoup de plans iconiques. Et là, même si, bon, le vaisseau Borg au début par rapport au ah zut, j'ai perdu le mot, le vaisseau Borg par rapport à tous les autres vaisseaux lors de la bataille au début,
J'ai pas tout compris. Tu dis que c'est moins beau,
c'est moins grandiose, c'est plus humain. Je dis pas que c'est mieux ou moins bien.
Ouais, je crois que je vois ce que tu veux dire. Parce que la photographie est moins travaillée, peut-être. Parce que
Ben,
c'est surtout des plans
question d'échelle de grandeur alors.
assez figés qui sont, enfin, je sais pas comment dire, assez calmes. C'est peut-être le fait aussi qu'il y a plus d'action dans celui-là. Il y a quand même le plan, moi, je trouve, de loin où ils sont en combinaison sur la coque de l'Enterprise.
Ouais.
Qui est quand même assez beau, je trouve.
Ah d'ailleurs, on
Mais
a.
t'as raison, ouais, il y en a moins. Ouais, la photo est moins travaillée.
D'ailleurs, durant. Oui, c'est. Mais les lumières sont bonnes, notamment à l'intérieur du vaisseau, quand même. C'est bien,
Et
même si c'est.
les scènes impressionnantes, elles sont plus dans le mouvement.
Ouais.
Comme la bataille avec le cube Borg au début, ou la reine Borg quand elle arrive, voilà, c'est plus dans le mouvement.
C'est vrai, c'est vrai. Juste, ben, en parlant de mouvement d'ailleurs, lors de l'exploration du vaisseau, on a oublié de parler d'une très très courte scène au tout début de l'exploration où Worf est malade parce qu'il a la tête à l'envers. Et en fait, Picard lui fait réaliser qu'il est dans l'espace, donc il n'y a pas de haut ni de bas. Et donc il ferme les yeux, il regarde ses pieds et c'est bon, il est à l'endroit. Et j'ai trouvé l'idée assez rigolote.
Elle n'est pas assez mise en avant en VF. Ça fait en VF, c'est ça fait plus genre oui t'es malade mais il suffit pas de regarder les étoiles regarde le cockpit et ça ira mieux. Ça fait plus regarde pas en bas quoi en gros.
Du coup, regarde pas en haut, regarde en bas.
C'est ça.
Ben après, c'est basiquement ce qu'il lui dit, mais c'est peut-être moi qui extrapole. J'ai les yeux pleins d'étoiles des fois,
Non, mais c'est possible.
ou moins de trucs, hein.
Est-ce que là, au moment où il fait ça, la caméra, elle se retourne?
Ben en fait, quand il fait ça, la caméra filme les yeux de Worf qui filme en bas, puis on filme les pieds. En fait, il y a une coupe. Et hop, on repart vers le haut et on est à l'endroit. Parce qu'en fait, au début, on le
D'accord.
filme Picard,
On tête à
Worf
l'envers.
et le troisième, et le Red Shirt, ils sont la tête vers le bas. Et enfin bon,
D'accord.
c'est pas très. Non, la mise en scène n'est pas exceptionnelle, mais l'idée était rigolote, j'ai trouvé ça.
Ah ouais, bah justement, ça aurait peut-être pu la mettre plus en avant en faisant une mise en scène un peu plus travaillée à ce moment-là. Mais ouais, ok. Ouais, du coup, moi, ça m'avait pas spécialement marqué.
Ouais. Dernière note pour ma part, j'avais jamais remarqué en fait que le phénix, le décollage du phénix, avait été réutilisé durant le générique de Enterprise. C'est là, quand je l'ai vu décoller, je me suis dit, ah,
Ah.
punaise! Alors que ben, j'avais déjà revu le film après avoir vu la série, je sais pas. Là, je me suis dit, oh! Bref, c'est bête,
D'accord.
mais.
Moi, le décollage du Phénix, je l'ai découvert dans le générique d'Enterprise. Et je savais pas ce que c'était au début.
Ah, t'as regardé d'abord les séries et après les films.
Oui, j'en avais parlé dans mon interview.
Ah, je me souviens plus.
Ouais, quand tu m'avais fait l'interview. Mm-hmm. Et du coup, c'est con en fait, parce que du coup, j'ai vu la première fois que j'ai vu le premier contact, c'était la version Univers Miroir d'Enterprise.
Ah ben oui.
Et donc je me suis dit, donc ça doit être le premier contact. Bon, j'imagine qu'il se passe pas comme ça.
Surtout que le découpage est particulier, tu sens que ils ont pas pu réavoir l'acteur, du coup hop, un plan sur ses mains, enfin bref, c'était intelligent, mais il y a un petit truc qui cloche. Mais ouais, c'est.
Et rigolo, du coup, est-ce qu'il y a, parce que du coup, il y a le côté émouvant du premier contact, il est pas aussi fort du fait que j'ai vu avant celui de l'univers miroir. Mais qu'est-ce que ça vous a fait quelque chose de particulier de cette scène justement du premier contact officiel de l'humanité avec les Vulcains?
Oui, j'ai bien aimé le fait qu'ils galèrent à faire le signe Vulcain.
Est-ce que tu y arrives toi d'ailleurs?
J'y arrive après moult entraînement.
Ça fait plus d'un an que tu t'entraînes.
C'est ça. Depuis le début.
Avec des haltères au bout des doigts et tout.
Mais après, je pense que dans le cadre de quelqu'un qui a regardé toutes les séries avant, tous les films avant, il y a peut-être le côté émouvant. Mais là, on enchaîne assez rapidement, hein, parce que c'est vrai que bon, ça fait un an qu'on a commencé, mais presque un film par mois, pas mal d'épisodes également, mais peut-être pas le rythme entier de la chose quand tu es dans le bouillon, tu sais. Donc je sais pas, moi je me souviens pas la première fois que je l'ai vu, mon ressenti. Là je le trouve très beau, mais parce que voilà, d'un côté j'ai tout ce passif et que je me dis c'est le moment où l'humanité a évolué, a mis, tu sais, c'est la marche, hein, qui a été gravie. Et donc maintenant avec le recul, oui, je trouve cette scène très très belle et assez émouvante, mais d'un côté, à la première fois que je l'ai vu, je me souviens plus.
Ouais, ça t'a pas, ouais. Je pense que j'avais lu qu'à l'époque, apparemment, ils avaient réussi plus ou moins à garder le secret sur l'identité des extraterrestres qui étaient à l'origine du premier contact. Et du coup, les gens l'avaient découvert vraiment au cinéma, quoi. Quand le vaisseau descend, ils savaient pas ce que c'était, quoi. Et donc, ils ont découvert les Vulcains, ce qui était finalement assez logique. Et pas choquant, quoi, c'est logique. Ça,
si ça avait été les Andoriens, ils se seraient foutus sur la gueule. Si ça avait été les Klingons, ils se seraient foutus sur la gueule. Si ça avait été les cochons de l'espace, ils se seraient foutus sur la gueule.
Les Tellarites, tu veux dire.
Les Tellarites, ils se seraient foutus sur la gueule. Les Xindi, ils se seraient foutus sur la gueule. Enfin, à part les Vulcains... Pardon.
Tu exagères.
Pas tant que ça. D'ailleurs, la preuve,
non,
la première fois qu'on voit...
rien, ils auraient été gentils.
Je sais pas. Je réfléchis à d'autres espèces qui auraient pu... peut-être les Trills. Les Trills, ça se serait bien passé. Enfin, bref.
Ouais, y a pas que... Il y a les... Comment ils s'appellent déjà? Les... celle de Diana Troy, il est...
Ouais.
J'ai oublié leur nom. Non, c'est pas grave.
On est nuls, ce
ça
soir. C'est Star Trek pour les nuls.
C'est la chaleur, ça.
Des nuls. Les Ferengi, ils se seraient foutus sur la gueule. Bon, bref.
Non, les Ferengi, ils auraient essayé de leur vendre des armes.
Ouais, quand on s'en serait rendu compte, on leur aurait foutu sur la gueule. Voilà, écoutez, je sais pas, il me semble qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on avait à dire sur ce film.
Ouais, je pourrais penser avoir plus de choses à dire, mais bon, c'est pas choix,
tu l'as
pas revu.
C'est l'effet Matou. Bétazoïde, merci beaucoup,
merci Arthur.
Donc, Diana Troy est une bétazoïde. C'est une demi-bétazoïde, mais bon, ça n'a pas d'importance. Et donc je pense que je peux parler au nom de toutes, de nous trois, en disant que c'était quand même un très très bon film. Apparemment, Charles, en étant Noob Trek, même si je pense que maintenant on peut plus vraiment te considérer comme Noob Trek, hein, parce que depuis très longtemps tu es dans le bain, toi également.
Oui, mais on va dire qu'au niveau des séries, tu es encore le bas.
Ouais. Mais je pense que c'est un film qui est facilement regardable au final, malgré ce que l'on en disait au début.
Oui, t'es un peu perdu, tu vas peut-être pas l'apprécier à sa juste valeur, peut-être par rapport à sa mentalité de Picard, on va dire, et à son développement. Mais basiquement, après, je pense qu'on peut apprécier le film sans avoir vu la série. Même si c'est plus compliqué de se mettre dedans.
Ouais. Du coup, toi, par rapport aux autres films que t'as vus, Charles,
Ah, moi, c'est
c'est...
mon préféré.
Ouais.
Ah, ben, c'est qu'il nous fait une petite anecdote. Il nous dit, les acteurs qui jouent les bétazoïdes portent des lentilles noires. Je l'ai remarqué depuis peu. Regardez les yeux de Marina Sirtis, l'actrice qui joue Diana Troy. C'est excellent. Ils ont une petite... modification morphologique par rapport aux humains, parce que c'est vrai que... Ah, mais oui, c'est vrai que Loaxana a des grands yeux noirs, profonds. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Est-ce que vous voulez faire un petit dernier mot sur... Ah oui, non, j'avais promis à Archer qu'on parlerait du trailer de Picard. Alors, au moment
Moi,
où
je
on
l'ai pas
enregistre,
vu, de toute façon. Okay.
c'est pas grave, Charles, t'inquiète. Au moment où on enregistre cette émission, on a un petit trailer de Picard qui est sorti hier ou avant-hier, peut-être samedi, dimanche, je sais plus. Tu l'as vu, Thierry?
Ouais, je l'ai vu, ouais.
Alors, qu'en as-tu donc pensé?
Bah, pas grand-chose. Je sais pas, on voit qu'il y a des personnages cultes qui vont revenir.
Ouais.
Mais ben pff, ouais, c'est cool. Mais je sais pas ce qu'ils vont faire, donc je sais pas. Moi il y a toujours les. Ben en fait, si tu veux, c'est ce que je reproche depuis un moment, j'en ai déjà parlé. On est toujours dans cette lignée-là, c'est-à-dire de jouer sur la nostalgie.
Ouais.
Mais clairement là on est à fond dedans, hein. Je veux dire, oh là là, il y a Seven of Nine, oh là là, il y a Data, oh là là, il y a Hugh. Enfin,
Je l'ai même pas
ben ouais,
reconnu
c'est
dans le
cool.
générique, dans le
Mais
trailer.
voilà, c'est encore, on joue encore sur la nostalgie. Alors je sais pas, ça pourra donner peut-être une très bonne série, j'en sais rien. Point positif, mais ça c'était déjà avant, ben. Peut-être plus la sensation d'être dans Star Trek avec les dans le visuel de dans le visuel on va dire
Avec les Romuliens, ce genre de choses, tu veux dire? Plus sobre,
ouais les
plus... Ouais.
uniformes
Ouais.
etc plus dans une ambiance Star Trek mais après c'est pas ouais je sais pas voilà t'as des choses à dire dessus toi?
Non, tu as résumé ma pensée. J'invite les auditeurices à se diriger dans quelques jours vers l'épisode de Trek à Truc ou Actu Trek qui va être enregistré. Minos et Matou attendent juste la fin de la Comic-Con de San Diego actuellement pour faire un bilan des news qui nous ont été données à la fois sur Picard, sur la série Lower Deck dont on a eu les premiers visuels qui, par contre, elle me hype un peu plus, la série animée qui va bientôt arriver. Et je crois qu'on n'a pas eu d'autres news. Aussi, viteuf des news sur Tarantino. Mais, enfin bref. Ouais, donc un peu comme toi, je suis pas... Voilà, je... Voilà. Au début, j'étais très content d'apprendre qu'il y avait cette série qui allait arriver. Petit à petit, au fur et à mesure des news, j'ai commencé à me dire, ah, peut-être qu'en fait, c'est pas terrible. Matou m'a ouvert les yeux sur certains points par rapport à Sir Patrick Stewart qui a des choses dont on parlera lorsqu'on parlera de Insurrection. On sait qu'il a certains défauts lorsqu'il est en tant que producteur et qu'il a les mains dans les scénarios. Bon, après, il a pris de l'âge par rapport à Insurrection. Il a 20 ans de plus, hein. Donc, on verra bien ce que ça donne. Mais bon, c'est vrai que comme toi, moi, quand j'ai vu Jerry Ryan, Seven of Nine apparaître à l'écran, quand j'ai vu Data ou Before apparaître à l'écran. J'ai pas été comme tout le monde là sur les réseaux sociaux. Mon cœur a pas raté de bon. Voilà, ça me
Oui, c'est pour ça, que j'ai plus que...
Tu vois, j'ai plus la hype pour Lower Decks. Bon, visuellement, on n'aime pas, c'est pas la question. Mais Lower Decks, ça se passe sur un nouveau style de vaisseau. Ça se passe sur avec une équipe, qui n'est pas au commandement. Ça se passe, il y aura très probablement des guest stars, mais normalement, ça doit se passer sans guest stars. La trame m'intéresse plus. On suit des jeunes personnages qui découvrent un peu, qui se découvrent et qui découvrent un peu leur univers. Enfin, je suis plus intéressé par ce genre d'approche-là que par un Picard qui revient sur sa vie.
Ben, un peu pareil que toi. Ben, justement, la série animée Lower Decks va pas jouer sur la nostalgie. Puisqu'on va pas nous ramener de guest star, j'espère qu'on va pas nous faire 3000 références à la seconde, mais comme ça se fait beaucoup.
Il y en aura forcément.
Mais ouais, faut pas qu'elle soit trop présente, quoi.
Voilà.
Mais bon, voilà, c'est vrai. Après, je crache sur rien du tout. Hein. J'ai ce côté un peu, j'ai été vachement refroidi par toutes les nouveautés sur Star Trek qu'il y a eu ces 10 dernières années. Donc forcément, j'ai du mal à être enthousiaste pour n'importe quoi de nouveau. En fait, ça pourrait être génial. J'arriverais pas à être enthousiaste pour ça. Sans commencer à le regarder, quoi. Donc bah voilà, on verra bien. Mais ouais, ça marche pas sur moi le coup du en faire venir des personnages cultes avec leurs acteurs. C'est tant mieux pour les gens que ça excite, mais moi c'est des personnages, si j'ai envie de les voir, j'ai déjà plein de séries pour les regarder, j'ai pas besoin qu'on en fasse une de plus, quoi.
Je comprends. Voilà. Ben c'était Archer qui nous a demandé. Il a dû partir avant la fin. Tant pis. Voilà pour ce qui était de notre avis, mais de toute façon j'invite les personnes à qui nous écoutent à se reporter vers l'épisode d'Actu Trek où Minos et Matou vont parler de ça, et on connaît le recul qu'ont ces deux personnes lorsqu'il s'agit de ce genre de news. J'aime beaucoup leur manière de penser et de s'exprimer. Pour les personnes qui nous écoutent en différé, donc les auditeuristes du podcast. Donc, comme je l'ai annoncé dans le vlog YouTube, le mois d'août, on va faire une pause des diffusions. Ça ne veut pas dire qu'on arrête les lives le lundi soir. Donc, tous les lundis soirs, toujours un live de Pour une poignée de review. Je crois que dans le mois d'août, on va faire un Star Trek d'ailleurs. Déjà, non ? Je me souviens plus.
Que t'as prévu ?
si tu t'en souviens pas, je vais pas m'en souvenir plus.
Si, sur la saison 3 de Enterprise, le 26 août. Je sais toujours pas comment on va faire ça. Ouais, c'est ça. Le 26 août, on va faire sur la saison 3 de Enterprise. Donc, tous les lundis soirs, toujours les lives. Par contre, je ne vais faire que rediffuser des émissions qui ne sont plus disponibles, qui étaient diffusées sur Parlons Trek. Parce que le mois de juillet a été un peu catastrophique pour moi. Donc on a manqué deux émissions et en fait on a pris du retard sur le rythme de diffusion. Donc si je veux quand même pouvoir garder le rythme de diffusion d'un épisode par semaine comme on avait jusqu'à présent, eh bien il me faut un petit mois de recul. Donc à partir de septembre, vous aurez des épisodes totalement inédits pour une poignée de review et de Star Trek pour les nuls. Mais là, voilà, pour le mois d'août, les quatre épisodes qui sortiront chaque mercredi seront des Star Trek pour les nuls qui étaient parus chez Parlons Trek. Donc je sais pas, je vais essayer de trouver un petit thème vu qu'il y a quatre épisodes à sortir. Il y aura évidemment le Actu Trek, mais lui, il risque... on est le combien là ? On est le 22, je sais plus, la San Diego, ça s'est arrêté hier soir, non ? La Comic-Con. Ou ce soir ?
Alors là, j'en sais rien.
Il me semble que c'est 3 jours, samedi, lundi, dimanche. Donc, il va être probablement enregistré le week-end prochain, peut-être avant la fin août. Donc, on verra. Voilà. Si cet épisode vous a plu, Je vous invite, lorsque vous êtes en pause au travail à la machine à café, ou que vous êtes en train de papoter avec votre pote en train de boire une bière et de regarder un match de foot, de lui dire « Hey, je connais des personnes sympas là sur Internet qui papotent de films de temps en temps, et parfois un peu de Star Trek, parfois un peu de livres, parfois un peu de séries. Ça s'appelle Pour une poignée de reviews. Tu peux les trouver sur Spotify, sur Magellan, sur iTunes Podcast, sur Podcast Addict, sur Google Chromecast. Tous les diffuseurs de podcasts nous ont acceptés et c'est très beau. Voilà, sur Podcastéo. Et je vous invite vraiment à nous écouter. C'est... je suis perdu. Je ne sais plus ce que je fais avec mes fins d'émission. Je suis n'importe
promo,
quoi.
C'était l'instant promo.
Si vous nous avez écoutés jusqu'à présent, écoutez-nous jusqu'à la fin. Charles,
oui,
ça va?
C'est très bien.
Eh bien, écoute, bonne nuit. Je suis désolé. Bonne soirée, à bientôt.
Bonne soirée.
Allez, ciao à tous.
Crop là.
Chauffez les moteurs. Préparez la distorsion. Chargez les déflecteurs. Star Trek. Pour les nuls. En avant.
Cette fin minable.
Ah, ça c'est clair, comment tu t'es chié, hein.
Ah, mais je sais plus.
Pas de mot de la fin, ni rien.
Ah, c'est la crise.
Qu'est-ce que t'aurais... Ah ouais, tiens, qu'est-ce que... on les met en bonus. Qu'est-ce que t'aurais dit en mot de la fin?
Mot de la fin, très bon film, qui gère plutôt bien le retour dans le temps, mais notamment parce qu'il traite pas forcément des conséquences.
Ouais.
Aussi. Donc ça aide de bien gérer le retour dans le temps. Et non, vraiment à voir qu'on est fan de Star Trek ou non.
Cool. Et toi, Dragor, pardon. J'en reviens pas.
Attends, je baille.
En fait, c'est pas avec la bite et le micro, c'est par-dessus le micro qu'on a fait l'émission.
Dans les... Mais en fait, je viens d'avoir l'idée d'aller sur IMDb, du coup, je trouve des trucs.
On l'a pas pris. Non, mais c'est pas possible.
Mais non, mais c'est pas grave. Ben ouais, quoi dire de plus. Ouais, bon film, bien rythmé, avec de l'horreur, de l'aventure, de la philosophie, et tout plein de choses bien, des jolies scènes.
Pas beaucoup de métaphysique. Je l'ai pas trop relevé cette fois.
Non. Et voilà, c'est à voir.
Voyez-le, qu'il est bien.